Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu ? Pour faire mourir et pour faire vivre. En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, un homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu et avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi, ton serviteur. Qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Élisée lui dit, « Pars dans la paix. »
Merci bien. C'est toujours un privilège que de pouvoir être là avec vous. Et beaucoup de mes proches me disent, mais quand même, ce virus a de l'avantage, c'est qu'on te voit un peu plus. Alors bon, il faut le prendre comme étant un avantage. Je ne suis pas sûre que pour les malheureux gens qui sont malades, ce soit vraiment un avantage. Mais ceci étant dit, ce matin, c'est vraiment un privilège que nous puissions être ensemble et écouter ce que la parole de Dieu a à nous dire. Je voudrais profiter aussi de ce que nous ayons la possibilité d'être retransmis pour vous envoyer mes salutations vraiment très chaleureuses aux uns et aux autres qui n'êtes pas là ce matin. Et j'ai une pensée toute particulière ce matin pour deux membres de ma famille, mais une particulièrement pour une personne qui s'appelle Zoé, et c'est ma copine. Elle a fréquenté ici l'église quand elle était enfant, et aujourd'hui elle n'est pas là, mais je sais qu'elle regarde. Sa maman m'a dit que elle devait regarder ce matin. Alors tu nous manques et on aimerait bien te revoir ici à l'église. Voilà. Prions. Seigneur notre Dieu, quel privilège tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi, pour savoir que c'est toi qui es le maître de toutes choses. Seigneur, ouvre notre cœur, notre esprit et Seigneur, conduis-nous. Que ce soit à toi que revienne la gloire. C'est en Christ Jésus que nous prions ce matin. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler donc de la grâce et de la compassion et la miséricorde de Dieu. C'est le sujet de ma prédication. Et en fait, pour en parler, j'ai pris ce texte qui nous a été lu. C'est quelqu'un pour qui on avait, Naaman, pour qui on avait vraiment un très grand respect. Quelqu'un que l'on admirait. Quelqu'un que l'on acclamait. Lorsqu'il passait près de vous, vous ne pouviez faire autrement que de lui laisser le passage. Comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui méritait l'admiration de son peuple. Quelqu'un reconnu dans son métier. Cet homme était ce que l'on appelle un haut gradé. Mais cet homme n'était pas israélite. En fait, comme nous l'a rappelé notre sœur, c'était un officier, c'était l'officier du roi syrien. Nous trouvons cette histoire donc dans le deuxième livre des rois, et l'action se situe au temps du prophète Élisée, environ 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. Sous l'influence des pays voisins, le peuple d'Israël se détourne de son Dieu constamment pour adorer des idoles. Durant cette période, la foi était en danger. Mais cependant, c'est un païen, Onni des armées d'Israël, qui va montrer un bel exemple de retour et de soumission à Dieu. Quelle est la signification du nom Naaman ? Cela signifiait être gracieux, être agréable. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que le peuple syrien avait été victorieux. Mais cet homme fort et vaillant avait un secret. Il était lépreux. Mais revenons à notre histoire. La capitale de Syrie, Damas, vit un jour mémorable, proclamé dans tout le royaume. Jour de congé, de relâche. Les armées victorieuses rentrent d'une bataille décisive qui a sauvé la nation du désastre. Les drapeaux, les étendards claquent dans le vent. Ça ne vous rappelle pas une histoire dans l'Ancien Testament ? Une foule énorme s'est rassemblée pour saluer les valeureux combattants. De toutes les poitrines fuse une clameur immense. À la tête de son armée, monté sur un coursier de parade, le général Naaman recueille toutes les acclamations, pour lui tout seul. De toutes les poitrines fuse cette clameur immense. Sa science militaire, son génie tactique, sa bravoure ont sauvé la nation du désastre. Il est superbe, drapé dans des vêtements qui trahissent sa qualité d'officier supérieur. Dans la foule qui se presse au passage de ce cortège, il y a des mendiants, des savetiers, des porteurs d'eau, des pauvres gens qui le regardent avec, dans les yeux, une lueur d'envie, en se disant « voilà un homme, un vrai, qui a réussi dans sa vie ». Ça, au moins, c'est vivre vraiment. Mais dans la vie de Naaman, du général Naaman, il y avait un drame inconnu de la foule. Il était acclamé comme un héros national, mais une maladie répugnante et mortelle s'attachait à sa personne. La Bible nous dit encore qu'il était un personnage tellement considéré, mais une tragédie s'était installée dans son foyer et sa femme lui était devenue quasi étrangère. Il nous est dit aussi qu'il était vaillant, mais la vue de ses plaies le faisait défaillir. La Bible encore nous le présente comme un libérateur, mais il était vaincu par la maladie. Homme grand devant les hommes, mais petit devant la maladie. Dans la vie de Naaman, il y avait un petit mot de 7 lettres. Il était tout cela, tout ce que nous avons dit avant. Mais il était lépreux. Qu'est-ce que la lèpre ? La lèpre est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie. Cette infection touche principalement la peau, les nerfs, les membres et les yeux. Aujourd'hui, il existe un traitement pour ça. Mais à l'époque de Naaman, il n'y avait pas de remède et cette maladie était incurable. D'ailleurs, nous trouvons plusieurs récits dans la Bible qui nous parlent de lépreux, entre autres dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même cite la guérison de Naaman dans l'Évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 27. Jésus nous rappelle qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. De même, au chapitre 17 de ce même évangile, au verset 11 à 19, il nous est dit que Jésus rencontre 10 lépreux, vous vous rappelez de cette histoire, et qu'en fait, ils furent guéris, mais qu'un seul est revenu vers lui. Et ce lépreux était un étranger, venu donner gloire à Dieu. On est frappé par la similitude de ces deux personnages. Le Samaritain, le Syrien, tous deux lépreux, tous deux étrangers, tous deux guéris à distance, tous deux reconnaissants pour leur guérison, mais surtout, tous les deux reconnaissent le seul Dieu Sauveur. Mais revenons au texte biblique. Quelle était la situation géopolitique au temps du prophète Élisée ? 2 peuples, Israël, la Syrie, qui pendant des années et des années étaient en guerre. Mais là, l'histoire nous est racontée dans un temps d'une relative paix entre les deux pays. Nous voyons que Dieu se sert souvent de situations, de circonstances géopolitiques pour agir dans la vie des gens et parfois dans la nôtre aussi. En temps de guerre, on ramenait au pays des esclaves du peuple vaincu. Pour aider, sa femme Naaman avait ramené une jeune esclave pour l'aider dans ses travaux journaliers. Il nous est décrit dans ce texte plusieurs personnages qui vont défiler, qui vont parfois se rencontrer. Naaman, bien sûr, une jeune esclave captive, deux rois, Syrie et Israël, des serviteurs bons et mauvais, et le prophète Élisée. Et nous allons ce matin nous arrêter sur quelques noms. Tout d'abord, il y a cette jeune esclave, cette jeune fille. Dieu s'est servi du dernier personnage du royaume, d'une jeune fille esclave qui n'avait même pas de statut social, qui n'était nulle part dans l'échelle des valeurs, qui pouvait être traitée comme une bête de somme et sur qui son maître avait le droit de vie et de mort. Et pourtant, cette frêle jeune fille, Dieu va en faire son messager. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 27, il nous est dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Oui, effectivement, on peut le constater au travers de la vie de cette jeune fille. Dans la vie de cette jeune esclave, il y avait, au contraire des autres personnages, une petite addition. Elle connaissait l'Éternel Dieu. Elle connaissait le Dieu vivant et vrai. Ce que l'on sait, c'est qu'elle était un vrai témoin, sans crainte de témoigner de la réalité de qui était Dieu. Une jeune fille qui osait prendre des risques. Une jeune fille qui avait de la bienveillance et de la compassion pour les autres, malgré sa déportation. Au lieu de cultiver des sentiments de haine ou de vengeance, elle vit par anticipation la parole de Christ. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Cette jeune fille parle, elle apparaît dans cette scène. On ne veut pas dire juste pour quelques mots qui va mettre Naaman sur la piste du salut. Ah, si mon serviteur connaissait le prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Elle ne met pas son drapeau dans sa poche. Elle ne cache pas son identité. Elle affirme ce qu'elle croit. Si Dieu veut nous utiliser et nous sauve, ce n'est pas à cause de nos diplômes ou à cause de nos talents ou de nos mérites ou encore de quoi que ce soit que nous aurions fait de bien. Si Dieu nous sauve et nous utilise, c'est parce qu'il est le Dieu d'amour, de grâce et de compassion. Mais regardons ensemble aux autres acteurs de ce texte. Les deux rois. Deux rois qui ne veulent pas trop se mouiller, excusez du terme, pas se mouiller personnellement, l'un se lamentant et l'autre écrivant une lettre. Ils passent les problèmes aux autres. Et quel contraste entre le témoignage confiant de cette jeune fille et l'attitude suspicieuse du roi d'Israël. Heureusement, le prophète Élisée va intervenir pour calmer la situation et amener le roi à la raison. Et puis il y a bien sûr Élisée, dont le nom voulait dire « Dieu et salut ». Il était le successeur d'Élie. C'est lui qui avait reçu la double portion de la sagesse d'Élie. Élisée avait reçu un pouvoir surnaturel dont il pouvait user librement. Élisée savait ne pas se mettre à la place de Dieu, montrant toujours Dieu. Il laissait la lumière sur celui qui est son maître, sur celui qui l'avait appelé à le servir, le Dieu grand et fort, créateur du ciel et de la terre, qui aime sans compter. D'ailleurs, en regardant d'un peu plus près la vie et le ministère d'Élisée, on est frappé par la similitude de son ministère et de celui du Seigneur Jésus. Et enfin, sans oublier les serviteurs. Tout d'abord, ceux qui se préoccupent du bien-être des autres, ceux qui veulent du bien aux autres, ceux qui veulent et mettent du temps pour les autres, ceux qui servent Naaman, et bien sûr, ceux qui se préoccupent de leur propre bien-être, ceux qui veulent gagner, ceux qui veulent profiter. Et parmi eux, Géasi faisait partie. Et puis enfin, il y a le Dieu créateur, le maître de toutes choses, le maître de le Dieu de la grâce, de la compassion, ce Dieu qui décide de faire du bien et de faire aussi de Naaman son instrument. Et Dieu vient à sa rencontre. Naaman seul face à son Créateur. Dieu qui connaît le lourd secret de Naaman. Ce Dieu qui nous connaît, comme nous dit la parole, depuis le ventre de notre mère. Oui, Dieu connaît parfaitement Naaman. Dieu l'a utilisé pour montrer sa gloire, sa puissance, même si cela était parfois contre le peuple d'Israël, qui désobéissait aux lois de l'Éternel. Mais là, dans cette histoire, Dieu est là pour lui. Dieu, avant tout, veut lui montrer sa grâce et sa compassion. Et Naaman, lui, est simplement là pour la première fois de sa vie, pour lui-même. Pas pour son besoin, pour le besoin des autres, pas pour porter les besoins de son roi ou du peuple, mais pour lui. Au départ de l'histoire, Naaman veut donc être guéri, mais pas n'importe comment. Il arrive en grande pompe comme un conquérant sur son char. Il donne des ordres. Et en d'autres termes, il veut bien bénéficier des bontés de l'Éternel, mais en dictant ses propres lois, ses propres règles. Au départ, il n'est pas prêt à s'humilier, en l'occurrence à descendre de son char. Lui, le personnage de haut grand, on l'entend presque dire « Je veux bien être guéri, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. » Son orgueil est sur le point de bloquer sa démarche d'espérance. Naaman est un homme orgueilleux. Il a certes beaucoup de qualités, nous l'avons vu déjà, mais il reste un être avec beaucoup d'orgueil et de contentement de soi. Après tout, on lui doit le respect dû à son rang. Lui qui a eu accès au grand roi de Syrie, il a accès au grand de ce monde. Et en fait, c'est dans cette attitude qu'il part en Israël. Et de plus, il part avec tout ce qu'il pense pouvoir démontrer, sa grandeur, sa force, de l'or, de l'argent, des vêtements, ses médailles, bien sûr. Et puis, bien sûr, la lettre du roi de Syrie. Nous aussi, parfois, nous voulons bien être guéris, mais souvent, pas question pour nous de descendre de notre char. Nous voulons que Dieu nous réponde. Mais comme nous l'avons prévu, sans parfois intégrer la volonté de Dieu, nous risquons d'être dans une demande déconnectée de l'humilité. Et comme Naaman, souvent, nous nous irritons quand les réponses ne correspondent pas à nos attentes, quand apparemment Dieu reste sourd à notre détresse. Mais revenons à la scène centrale. Voilà enfin l'instant tant attendu. Après tant d'années de souffrance, de vie cachée par une maladie honteuse, enfin l'espérance de la guérison. Et Naaman se prépare enfin à la rencontre avec Élisée. Mais quelle déception! Le prophète ne prend même pas la peine de venir à lui. Il lui envoie son serviteur. Aucun signe de respect pour sa personne. Aucune considération pour Naaman. De qui il est, de son statut, de son haut rang. Quel mépris! Est-ce qu'Élisée sait vraiment très bien qui est cet homme? Qui est Naaman? Mais Élisée ne le reçoit pas. Et voilà qu'en plus, l'ordre du prophète est de lui dire « Va faire trompette ». Quoi? Oui. La seule chose qu'Élisée fait, c'est de l'envoyer à la baignade. Va te tremper dans le fleuve du Jourdain. Quelle toupet! Quel culot ce prophète, excusez du terme. Élisée ne montre aucune considération pour sa personne, semble-t-il. Mais Élisée, inspiré par Dieu, a transmis à Naaman seulement un message clair et facile d'exécution. Mais au regard de Naaman, quelle déception! Naaman ne connaissait pas Élisée. Il était venu pensant tout d'abord que ce serait le roi qui userait de son influence en sa faveur. Mais non, il a rencontré un roi peureux, trouillard, qui ne fait que de déchirer ses vêtements. Ce roi n'ose même pas user de son pouvoir pour donner des ordres. Mais finalement, peut-être que la jeune fille avait-elle exagéré l'importance de ce prophète. Mais non, elle avait parlé, sachant que seul ce prophète était vraiment utilisé par Dieu. Même si à cet instant même, Naaman ne prend pas conscience qu'il va à la rencontre de son Créateur, sa seule pensée, son seul désir est qu'il y ait un changement profond dans sa vie. Et il veut seulement et simplement être guéri de sa lèpre. Naaman ne prend pas conscience de ce que Dieu voulait vraiment, mais Dieu voulait lui faire prendre conscience que malgré son rang, malgré son statut, son orgueil, il n'était en réalité rien. Il n'était juste qu'un homme malade. Mais quelle colère ressentie, quelle déception, mes amis, pour Naaman. Il faudra la persistance de ses serviteurs pour que Naaman fasse ce que le prophète lui a dit. Et justement, les serviteurs vont lui dire et lui faire remarquer que si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, il l'aurait fait, n'est-ce pas? Alors, pourquoi refuser la simplicité? Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi et tu seras pur. Heureusement, Naaman avait des serviteurs intelligents. J'aime leur réaction pleine de bon sens et d'à propos. Mais je vous laisse imaginer la scène. Cet homme dont la poitrine était remplie de médailles, il a fallu qu'il les retire une à une. Il devait se défaire de tout ce qu'il était en réalité, de ce qui lui donnait fière allure, de ce qui lui donnait du pouvoir. En fait, Naaman avait besoin de voir l'action réelle de quelqu'un qui peut lui faire grâce, quelqu'un qui peut le guérir, quelqu'un qui lui montrerait de la compassion pour son être intérieur. Et pour finir, le voilà dans l'eau. Une fois, rien. Deux fois, rien. Trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et la septième fois. La septième fois, enfin le miracle se produit. Enfin, plus rien sur sa peau, plus rien du tout, plus aucune trace. Enfin, Naaman n'allait pas plus cacher ce mal honteux. Le texte nous dit qu'il avait une peau comme un enfant. Il était pur. Et enfin, voilà la vraie rencontre avec Élisée. Naaman prend conscience et reconnaît que c'est le Dieu vrai, le Dieu de compassion et de grâce qui en est l'auteur de sa parfaite guérison. Que ce Dieu-là a tout pouvoir. Et Naaman reconnaît enfin la souveraineté du grand Dieu. Mais Naaman fait une seconde demande. Et il lui dit, rappelle-toi, et le texte nous a été lu. Je prie l'Éternel de me pardonner quand le roi me demande de l'accompagner. Naaman a un problème de conscience. Son roi adore le dieu de l'orage, Rimmon. Et à chaque fois qu'il doit l'accompagner pour les cérémonies, il doit s'abaisser lui aussi. Et là encore, Élisée va lui montrer ce Dieu exceptionnel, si grand et si parfait, qui nous comprend et qui nous fait grâce. « Va en paix », lui dit-il. Mais que faire avec le contentement? Que faire lorsque l'on décide de se soumettre à la volonté de ce grand Dieu? Une seule chose, reconnaître l'action de Dieu dans sa vie et s'y soumettre. Pour Naaman, c'était la maladie qui, dans sa vie, a été l'aiguillon et le déclencheur qui lui a fait découvrir un sens plus profond dans sa vie. Mais qu'en est-il pour nous? Qu'est-ce qui va nous permettre de laisser Dieu agir en nous? Qui va nous faire découvrir ou redécouvrir Dieu dans notre vie? De même que Naaman devait aller tout simplement se plonger cette fois dans le Jourdain pour être purifié, de même, nous aussi, il nous faut accepter d'aller à Jésus tel que nous sommes. Mais posons-nous la question. Quel est le nom de notre lèpre à nous? Quelle est la chose qui, dans notre vie, qui nous grignote peu à peu? Quelle lèpre physique ou mentale nous tient dans ses griffes? Mais en fait, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Peut-être tout d'abord que Dieu regarde avant tout au cœur. Au cœur de l'homme et non à son appartenance à tel peuple ou à telle religion. Qu'il nous faut respecter les choix de Dieu, même et surtout si on ne les comprend pas tout de suite complètement. Que notre orgueil, comme celui de Naaman, est souvent la cause de nos échecs dans notre relation à Dieu. Que Dieu, l'auteur de notre vie, doit rester notre priorité absolue. Lui seul est digne de notre adoration. Notre Dieu est patient. Il attend. Dieu sait qu'il peut tout faire. La Bible nous dit que rien ne revient à lui sans effet. Mais aussi, quel est l'enseignement spirituel de ce texte? Certains utilisent ce texte pour parler de la conversion de Dieu ou parler du baptême. Mais je crois que ce texte nous montre surtout qu'en fait, la grâce de Dieu, cette grâce faite qui a permis à Naaman d'être guéri, est là pour tout être humain qui veut s'approcher de Dieu avec le désir d'être entendu. Apprendre à redécouvrir la grâce et la compassion et la miséricorde de notre Dieu, cela veut dire recevoir gratuitement ce qui ne vient pas de nous, ce que nous ne méritons pas, comme cela a été le cas pour Naaman, pour sa guérison. Il n'avait rien fait pour, c'est Dieu qui a fait. Et cela nous ramène au verset d'Éphésiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes l'ouvrage de ses mains. Ce texte nous fait redécouvrir que c'est Dieu qui vient toujours à notre rencontre. Il nous fait redécouvrir ce Dieu qui nous demande, une fois comme un petit enfant, même pour les choses qui nous semblent si compliquées. Ce texte nous aide à savoir se séparer, de ce que nous croyons être primordial. Pour Naaman, c'était son titre, son rang, ses médailles, ses vêtements. Qu'en est-il pour nous? Est-ce que ce qui est primordial pour nous, qu'est-ce qui est primordial pour nous? Et donc, Dieu nous demande de nous séparer. Oui, pour nous, c'est revenir à Dieu, à notre premier amour, car la grâce et la miséricorde de Dieu suffisent amplement. Oui, redécouvrir la grâce comme source de salut, redécouvrir la pure bonté de Dieu qui aime le pécheur et désire non pas sa mort, mais que sa créature retourne à lui. Oui, car Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ainsi, nous redécouvrirons les effets de sa grâce sur nous. Sa grâce nous apporte le plein pardon de nos fautes. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Sa grâce nous rend la vie avec le Christ. Et enfin, pour finir, ce texte nous montre aussi la compassion et la miséricorde de Dieu. La compassion de Dieu qui est en fait sa bonté à notre égard. Une bonté qui s'émeut à la vue de nos souffrances et de l'angoisse, comme pour Naaman. Il compatit à nos douleurs. La parole de Dieu nous rappelle que la compassion de Dieu, ce n'est pas de la pitié à notre égard. Elle est une démonstration de son amour. Oui, comme le dit Jérémie, et il nous a été relu tout à l'heure par notre pasteur, les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme, mes amis. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Faisons comme Naaman, décidément. Celui qui était le maître devient le serviteur. Naaman ne se prosternera plus que devant le Dieu créateur. Oui, plus nous connaîtrons la grâce et les compassions de notre Dieu, et plus nous lui ressemblerons. Le prophète Élisée a dit en conclusion à Naaman, « Va en paix, alors nous aussi allons en paix. » Amen.